Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at uh1.com.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Burrow is a furniture company known for timeless design and thoughtful construction, and free shipping, and that extends to their outdoor collection. Their outdoor furniture is built to withstand the elements, featuring rust-proof stainless steel hardware, weather-ready teak, and quick-dry foam cushions. For Memorial Day, get 15% off your Burrow purchase at burrow.com/acast, and up to 25% off outdoor. That's up to 25% off outdoor furniture at burrow.com/acast.
On fait quoi comme jeu pour commencer? Je suis premier encore?
Non, on fait un petit bac.
Toi, allez, tu choisis la lettre, toi, tu choisis ce qu'on doit chercher.
Voilà.
Ok. Okay. On commence par C.
Con.
Attends, il n'a pas dit ce que c'était.
Je pensais que ce serait insulte.
chercher des villes.
Carcassonne.
Châteauroux.
Chambéry. Il a perdu.
Ah bah oui, c'est vrai, t'as perdu, donc c'est toi qui démarre.
Bah oui, il a perdu.
Bah parce que c'est
parce
celui
que t'as pas trouvé.
Il a dit Châteauroux.
Non, t'as pas trouvé.
C'est lui qui a dit Châteauroux.
Arrête.
Allez, Châtellerault.
Non, non.
Allez, François, t'as
c'est
perdu.
C'est parti.
J'en ai marre de perdre.
Ouais.
En plus, je suis nul, hein. Aujourd'hui, la fabrique avec
épisode 4
avec Juliette Arnaud, Ramzi Assadi et nos invités Mounir et Jamil. Ouais. Bonjour.
Bonjour à tous. Bienvenue dans la fabrique.
Tu l'as consterné.
Oui, c'est
l'effet François.
Et si vous me faites perdre à chaque fois, ce sera nul les démarrages à chaque fois.
Mais on te fait pas perdre, t'es mauvais à tous les jeux.
J'avais dit Châtellerault. Ou Châteauroux. Enfin, l'autre de ce qu'il avait dit.
Okay. Non, t'es mauvais au jeu et ça fait 4 fois que tu le fais et tu sais toujours pas lancer le
podcast. Non, et en plus.
Ouais, parce que j'aurais dû préparer avant. Ouais. Non, je vais perdre.
Ok, allez. Maintenant qu'on est. On s'est
voilà, mis. Donc bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans La Fabrique, le podcast consacré à la création avec François Audouin, auteur, réalisateur.
Mais c'est bon, tu m'as pas appris ça à chaque fois. Mais les gens, ils taperont, ils googleront.
Ils trouveront rien.
Juliette Arnaud.
Voilà, qu'on présente plus.
Bah oui,
comédienne. Tu peux googler.
Non, allez, ça saoule.
Et Ramzi Assadi.
Qu'on ne présente plus.
Bah non, cherchez sur Google aussi.
Et nos invités, Jamil Le Schlag, humoriste, on peut dire.
Humoriste, ouais, c'est bien déjà.
Et Mounir.
Exact. Bonjour. Oui,
bonjour.
Alex. Ah, juste avant, on va en parler.
Et c'est Mounir comment? Parce que moi, je ne sais même pas.
Mounir. Est-ce que soit Jamil, soit Mounir, on peut dire qui est Mounir rapport à toi?
Bon, ben, je vais le faire.
Hein. Ouais, fais-le, c'est mieux. Ouais.
On est amis d'enfance au départ. Mmh. Et puis aujourd'hui, je suis son co-auteur depuis qu'il s'est lancé dans le spectacle. Donc voilà, en gros, mon rôle aujourd'hui, c'est co-auteur. Et puis, vu qu'on a monté une société pour qu'il puisse se produire de manière indépendante et pas avoir recours
un connard qui nous prend 70% du bénéf.
Et du coup aussi, voilà, j'ai un peu ce rôle de gestion administrative de notre structure à deux personnes. Ben, sur le papier, ouais.
Donc c'est toi le connard qui prend les 70% plus les droits d'auteur. Vraiment, c'est la bonne plaque. Et donc, comment ça s'est passé, Jamil?
Ouais.
Toi, comment t'es devenu humoriste
Sur le tard.
Sur le tard.
Ouais.
Ah ouais. À quel âge?
30 ans. 31. Ah ouais. Ouais. J'ai commencé vachement tard. Au Changeman. Je sais pas si t'as connu le Changeman, le café de Paris à Ménilmontant. Il y avait une scène ouverte, c'est là-bas que j'ai commencé. Et Mounir, lui, à l'époque, était encore journaliste chez au Maroc, je crois. Non,
t'étais j'étais rentré ou pas?
Au début, t'étais encore,
encore au Maroc.
Au Maroc,
ouais, c'est ça.
Ouais, médien, ouais. Voilà, bien sûr.
Chez les copains qui sont passés, qui sont toujours.
Une grande filière.
Ouais.
Et puis après, comment ça s'est passé?
Donc vous connaissiez avant?
Je connais depuis le collège, je dirais.
Ouais,
parce que
d'accord.
Lui, en fait, c'est un mec de ceinture. Moi, je suis un mec de Vichy, ce qui n'a absolument rien à voir. Et on s'est connus à travers le basketball, parce qu'on était fans de basket, on jouait ensemble au basket. Et puis c'est comme ça qu'on s'est rencontrés, et puis après, au fur et à mesure...
Et donc, Mounir a fait son parcours de journaliste.
Voilà, d'un télo, je dirais, plus.
Toi, de...
Chômeur, c'est essentiellement, fac de sociaux.
Ah oui, chômeur.
Fac d'histoire.
Non, je ne te laisserai pas dénigrer la fac de sociaux.
Ah oui, parce qu'il a fait fac de sociaux. D'ailleurs, c'est toi qui m'avais conseillé la sociologie.
Bah oui, mais pour aller au bout, quoi.
Oui, ouais, c'est ça. Je m'étais arrêté au bout d'un an. Mais c'est vrai que j'avais passé une super année.
Tu vois?
Ouais, c'était hyper intéressant, les cours et tout.
Bah alors, pourquoi?
Non, bah en fait, il m'avait dit il faut faire 7 ans d'études. Pour être 8 ans pour être sociologue.
Ouais.
Ouais, mais...
bah, j'ai dit, bon, on va se lancer dans autre chose, quoi. 7 ans d'études, non, quand même, c'était
ouais,
un peu long. Hein.
T'avais quel âge quand t'étais en première année de socio?
J'étais déjà âgé, je crois que je devais avoir 21.
Oui, ben voilà. Ouais, t'aurais 21. Fait 21 plus 8, 29 ans, blague.
Oui,
t'aurais,
mais...
T'aurais été le premier stand-upper sociologue.
Je me permets, Juliette, parce qu'à 21...
Un sociologue, non?
Quoi?
Non.
Un sonneur, c'est un sociologue, mais toi, t'es populiste, en fait. T'es populiste.
Non, mais il y a des gens qui disent ça, c'est vrai. Je l'ai déjà écouté. Les humoristes sont les nouveaux sociologues ou les nouveaux philosophes. Ce qui
donc,
est
voilà.
Une connerie. Ouais, ce qui est une connerie, on est d'accord.
Quand même,
un peu loin.
Bah oui, il y a ton
quand
nouveau
même
philosophe.
Bien bas, c'est... Ouais.
Les nouveaux philosophes, c'est...
Et leur échantillon, c'est leur public, quoi.
Oui, voilà. Ah. Non, mais n'importe quoi. Non, chacun sa place. Hein. Je pense que nous... nous, on était...
Après, vous êtes retrouvé à quel moment toi, tu t'es dit que tu voulais te lancer dans l'humour?
Ouais, enfin, tu te le dis pas vraiment. Hein. C'est un peu le
on
hasard
sur scène
de la
par
vie.
Hasard.
Personne monte sur scène par hasard.
Alors là, je peux te dire que.
C'est pas tu livrais des sushis? Ah merde, c'est sur la scène du machin. Non.
Toi, vous allez un peu vite. Qu'est-ce qui s'est passé?
C'est pas loin.
C'est que. Sociaux et le stand-up.
Alors, première année de sociaux, ensuite. Je retourne, bien vu, je retourne donc à Vichy pour faire un BTS en alternance MUC, Management des Unités Commerciales. Et je travaille, j'ai pas d'entreprise, donc j'ai mon grand frère Mounir, mais pas le même, un autre Mounir du coup, qui avait un restaurant marocain, la Médina. Et il m'a dit, je te prends en tant que commercial, ce qui était faux, j'étais serveur. Et j'ai fait ça pendant 2 ans, quoi. Pendant 2 ans, j'ai fait un BTS en alternance où tu travailles en famille, c'est génial. Et puis après ces 2 ans, je suis venu à Paris où Mounir était déjà installé. Et j'étais en coloc, sous-loc d'abord, et puis après coloc avec Mounz. Et parce que toi, tu étais en fin de cycle.
Ouais, je finissais mon école de journalisme.
C'était à Paris?
C'était à Neuilly, Celsa. Donc moi je finissais, j'étais sur la fin de mon cycle et j'étais en stage et du coup je laisse mon appart pour qu'ils se mettent le pied à l'étrier sur Paris qui démarre.
Solidarité au Vergnat.
Mais c'était pour faire quoi à Paris? T'es venu faire quoi?
Non, rien de... Il n'y avait aucun projet en fait. Non, tout le monde a, je dirais, en Auvergne, on va tous à Paris quoi. Les gens, ouais, la plupart. Hein.
Ah bah,
et Lyon,
Paris,
Lyon.
Il y a une tradition en tout cas dans la restauration auvergnate
oui, ouais,
du 19e siècle où il n'y a pas un commerce... de bouche et de restauration qui n'est pas tenu par un bougnat, non? Ça, c'est sûr.
Ouais. Bon, là, c'est des bougnoules. Bon, en fait, c'est un peu le même. On n'est pas loin, on n'est pas
c'est
loin.
C'est lui qui l'a dit.
Ouais.
À aucun moment, j'ai pensé.
Non, mais bien sûr. Mais du coup, c'était donc, quelle année? Ouais, 2006
2009, parce que 2008, 2009, ça, quand tu viens.
Ah, d'accord. Ok, mais je pensais que c'était un peu avant. Mais bon,
non, 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 en fait, c'est ton co-auteur et c'est ton biographe.
Oui, ouais.
J'ai les carnets.
Et puis, comment ça s'est passé après? Et puis, ouais, non, c'était vraiment le hasard. Parce qu'au début, moi, je suis venu pour rejoindre les copains, pour travailler, avoir un taf normal. Ouais. Tu vois, parce que c'est ça en fait.
Bah oui, oui.
Au début, tu veux juste travailler parce qu'avant ça, t'es étudiant, tu travailles en alternance, donc t'es payé 700 euros par mois, tu sais, quand t'es en alternance.
Ouais.
Je dis 700 euros, je suis sympa parce que j'ai pas envie de mettre dans la merde mon grand frère Mounir qui me paye un ticket restaurant, mais on n'est pas là pour régler des comptes. Et du coup, ouais, l'idée c'était d'avoir un boulot, quoi. Et à Paris, ben, tu sais, tu peux être télé-enquêteur. Moi, j'ai travaillé
comme
beaucoup
ça,
à.
Plein d'endroits en France.
Tu peux, mais les places sont chères en fait. Il y a beaucoup moins d'opportunités. Ouais. Il y avait un centre, une plateforme téléphonique.
Mais il y avait 24 places.
Il y avait 20, tu vois, donc une fois que c'est pris, toi, t'es là. Pareil, le McDo, tu te dis.
Il n'y a pas de turnover.
Le McDo, c'est le job balourd, mais en fait, ouais, t'as un McDo sur toute une aire urbaine. Et donc, en fait, une fois que les 30 postes sont pourvus,
c'est fini en fait.
Ouais, c'est terminé.
Les places sont trop chères en fait dans les petits patelins comme ça. Là.
Et donc tu dis que t'es monté sur scène par hasard.
Ouais.
C'est-à-dire?
Bah en fait, il y avait. On regardait un peu des sketchs à la télé, tu sais.
Jamel Comedy Club.
Ouais, un peu. Gade, un peu tout le monde quoi. Ouais. Donc on rigolait, mais bon, mais ça nous a même pas. Et puis un jour, c'est un pote à moi qui me dit ouais, il y a une scène ouverte. Est-ce que tu serais. En gros, comme une sorte de défi quoi. Mais il me le dit, je dis ouais, je vais le faire, mais j'ai peur en fait, parce qu'en fait au début je vais regarder un peu au Pranzo, je sais pas si tu te souviens, le Pranzo, toutes ces petites, c'est le Trévise et tout, il y avait peut-être 3-4 scènes ouvertes à l'époque à Paris.
Il n'y en avait pas lourd en fait.
Et donc je suis parti regarder, ça devait être en 2012, et puis en fait ça fait peur quoi, ça fait hyper peur.
Mais qu'est-ce qui fait peur? C'est de voir des gens par exemple être dans des
prendre des bides. Tu te dis,
c'est plus inquiétant que de voir quelqu'un être super fort et te dire ah, c'est bon, je serai jamais au niveau.
Non, parce que ça, je pense que ça motive quand tu vois quelqu'un qui raconte des trucs et que tout le monde rigole. Tu te dis, le truc avec le stand-up ou l'humour, c'est que tu te dis ça a pas l'air très dur. En tout cas quand tu regardes, je sais pas moi, Mbappé, ça a l'air dur quand même.
Oh, je ne trouve pas, moi. Mais ah bon, ouais. Je ne connais rien, non.
Et quand tu regardes, je ne sais pas, moi, quand je regardais les débats à la télé là, sur 7 sur 7 avec Anne Sinclair, je disais, putain, les mecs, ils sont... Tu sais, c'est des têtes, quoi. Je ne pourrais pas... Mais l'humour, et c'est pour ça qu'on a beaucoup...
Le stand-up particulièrement, parce que c'est censé être un peu de la discussion, machin.
Oui, enfin,
quand
normalement...
Quand tu vois Eli Kaku en personnage, tu peux te dire, là, c'est dur.
Là, c'est dur, exactement. Mais vu que c'était un peu le début, je dirais, un peu du stand-up, où tu peux te présenter aux gens, raconter des anecdotes marrantes, tu te dis, bon, potentiellement, on peut tous le faire. Et puis, il y avait aussi une représentation, parce qu'il commençait à y avoir un peu de rebeu, un peu de noir, où on les voyait sur scène, et ça avait l'air, ils racontaient des trucs un peu qui nous parlaient. Donc, tu te dis, ouais, c'est faisable. Avant, c'était quoi? Les grands du rire. Et c'est vrai, je respecte.
Raymond DeVos, tu te reconnais moins.
Alors, je me reconnais moins, mais c'est vrai que les anciens, à Vichy, je me rappelle, ouais, Raymond DeVos. Bah, je comprenais rien, quoi. Je comprenais pas, quoi.
Tu comprenais rien ou ça?
Parce ça me faisait pas rire, en fait.
Ah, voilà, parce que moi, je suis un peu plus vieille que toi, mais moi, quand j'étais petite, quand je voyais Raymond DeVos à la télé, j'étais consternée.
Consterné
des adultes.
Ah oui, tu disais pourquoi il rigole.
Alors lui, il me terrorisait parce que de sueur,
trop de sueur, dans la bouche. Le maquillage et la sueur, moi ça m'angoissait.
Bah moi, quand j'étais petite, ça me terrorisait.
Il faisait trois pas, il était essoufflé. Oui, ça me terrorisait.
J'entendais son souffle et tout. Bah,
c'est là où moi je me désolidarise complètement.
Ouais, mais c'est une question de ressenti.
Non, mais ouais, c'est ça.
Et donc moi, je me sentais pas représentée.
Alors que Jerry Lewis.
Non, moi c'est Eli Kaku, la première fois que je me suis sentie représentée par quelqu'un, c'était Eli Kaku.
Oui, parce que Tareha, tu disais des mots.
Oui, parce que c'est ça, voilà. Moi je retrouvais des trucs du Sud et du Maroc, et je me disais, ah bah voilà, on parle la même langue.
Toi c'est qui, Mounir?
Moi,
c'est qu'à un moment tu t'es sentie représentée par...
Alors, non, pas. Moi je me suis pas projeté dans ce monde artistique, d'humour et tout ça.
Mais même dans le journalisme?
Dans le journalisme, non. Même, j'ai pas eu besoin de me dire il faut un modèle qui... Non, moi quand je finis mon cycle d'études, c'est le boom Harry Roselmack, tu vois.
Ouais. Mais, après la socio.
Ouais, je fais une fac de sociologie, après une licence, je fais de la science politique, et après j'ai fait le concours pour entrer en école, et voilà, après je... Donc, Donc, quand je finisse mes études, voilà, c'est cette et c'est le moment de la diversité.
Diversité. Voilà.
Je dis, j'ai une carte à jouer, putain.
Ben, ouais mais alors de manière involontaire, quoi. Donc, j'ai pas eu à me dire à me projeter sur quelqu'un parce que dans mon.
Mais même quand tu fais le concours, tu te dis pas ah tiens c'est pas fait pour moi ou.
Ça revient un peu. En fait, je fais le concours pour pas avoir à regretter plus tard, à me dire je fais un métier qui me plaît pas aujourd'hui, alors que j'aurais pu tenter de faire ce métier de journaliste qui m'intéressait. Donc je le fais plus pour pas regretter que pour.
Pourquoi ça t'intéressait ?
Pourquoi tu voulais ? Pourquoi ouais, c'était important de pas regretter d'avoir essayé d'être journaliste ?
Parce que au moment où je prépare les concours, j'ai fini ma licence sciences politiques, je rentre en master de Sciences Po, administration publique, et au bout de 2 mois de cours, j'ai envie de mourir. Et je me dis en fait, et donc après ça prépare à quoi ? Au concours administration, catégorie A, B, C, tout ça, fonctionnaire. Et je me dis, je ne vais pas pouvoir faire ça et faire 9h, 17h... En fait, reproduire le schéma de l'école sur la vie entière. Ouais, donc j'ai dit bon, c'est pas grave. Voilà, j'ai dit, c'est, je sais que j'ai. Après le fait de faire l'université, quand même, tu te familiarises un peu avec les codes des études supérieures et tout ça. Donc bon, tu rencontres des gens qui te permettent un peu de t'élever. Donc tu dis allez, pourquoi pas. Et donc voilà, c'est pour ça que je me suis dit allez, je viens à Paris, je paye une prépa privée là pour choper un peu.
Le fait d'avoir des gens qui. Pour eux, c'est accessible.
C'est ça, donc tu dis, vas-y, je.
T'étais à l'Université Lyon 2, non ?
Exact.
Ouais, j'ai caché un quand même.
Ouais, mais bon, j'avais des connexions à Lyon 3 aussi, donc tu vois, un petit modèle positif au-dessus.
Donc, classement à Lyon. Apparemment.
C'est ça, ouais. Ouais, donc,
comme partout.
Ouais, je pense
que. Lyon
2,
c'est les punks à chiens. Lyon 3, voilà,
c'est les bourges un peu. Fac de droite, d'accord.
Voire d'extrême droite, parce qu'il y avait Bruno Gollnisch qui était.
Ah oui.
C'était le numéro 2 souvent, du FN qui donnait des cours là-bas. Donc c'était vraiment,
dès qu'il y a. Ah ouais, il donnait des cours.
Ouais.
Même dans les facs de droit, c'est rarement des endroits de gauche. Hein.
Oui,
c'est
oui, ça, oui.
On en connaît
oui,
pas.
Mais t'es pas obligé de mettre des facs.
Oui,
chaud,
mais il y a du droit aussi à Lyon 2. Ouais. Mais ça reste des punks à chiens. Ouais. Je dis ça, j'ai fait Lyon 2 aussi. Hein. Ouais. J'ai fait les deux.
Moi, j'étais à Montpellier à la fac de sociaux, donc en termes de punk, on a créé le concept.
Ouais,
hein.
C'est la capitale.
C'était impressionnant.
Et il y a Rennes aussi.
Rennes aussi.
C'est ça, dans le trio. En gros, voilà, moi, je viens à Paris pour me préparer, pour faire ces concours-là. En gros, pour me dire, au pire, si tu finis à faire un boulot qui ne te plaît pas trop, tu pourras pas dire si j'avais tenté, j'aurais peut-être
pas la vie. Voilà,
c'est ça. Voilà, c'est ça, exactement. Donc, c'est un
mais il y avait quand même un projet, chez Mounir.
Oui, il y avait une direction, quoi.
Ouais, il y avait il a fait un bac ES déjà. Donc, moi, je me rappelle de sa classe, elle donnait trop envie, quoi. Et il y avait des débats. Je me rappelle un jour.
Toi, t'as fait quoi?
Moi, j'ai fait un BEP, compta, je me suis fait virer.
Dans le même lycée?
Il n'y a qu'un lycée en fait à Vichy. Il
okay.
y a en bas et en haut. Donc en haut.
J'imagine que tu étais en bas.
Voilà, en bas. Mais ça s'appelle comme ça, genre c'est une petite côte.
Ah,
c'est une colline.
C'est une colline en fait.
C'est
en haut, c'est le lycée général. Ouais. Où tu as même un peu technique, genre STT, tout ça là. Mm-hmm. Et en bas, tu as les BEP. Donc bleu de travail, chaussures de sécurité. Et c'était, on disait, en bas de l'échelle sociale.
C'est ça. C'est ça le message qui est envoyé.
C'est ça, mais c'était une époque, je m'en rappelle, où c'était les années 90, où on nous disait, si t'as pas le brevet, tu peux pas être balayeur. T'as pas le droit d'être balayeur si t'as même pas le brevet.
C'est une légende urbaine.
Mais les profs, ils nous disaient ça, ça nous mettait la pression. Et moi, j'avais loupé le brevet 2 fois, tu vois. Pas une fois, 2 fois, je le répète.
Toi, tu faisais un rejet, t'as une phobie scolaire, quoi.
Non, c'est qu'en fait, vers la cinquième, en fait,
ça
j'ai
s'est
lâché.
Déclaré. Mais c'est parce que c'est souvent les garçons à cet âge-là, quand ça commence à merder, c'est à peu près à la cinquième, et je n'arrive pas à comprendre pourquoi.
Alors moi, je pense que c'est parce que on était très nombreux chez moi, je m'en rappelle, quand j'étais petit, et puis j'avais toujours mes grands frères qui étaient un peu derrière moi, qui me disaient, tiens, lis ça, lis l'Express. Non, mais c'était au CM1.
Mais n'importe quoi.
Ils me disaient, lis, je comprenais rien, je disais, mais c'est chiant. Et c'était pour que je retienne l'orthographe. c'était pour ça en fait, parce qu'en orthographe, j'ai fait la dictée d'or, je sais pas si je vous ai dit.
Si, ça on est au courant.
C'est mon seul diplôme, vrai diplôme. Non, mais au moins... Dictée d'or de Bernard Pivot. Okay,
donc ça veut dire que ça a à peu près réussi, t'as une orthographe pas mal.
Ah bah ouais, laisse tomber, là je peux te faire une dictée là, ouais. Voilà, c'est tout ce dont je me souviens, l'orthographe, mais après cinquième... Mes frères, ils sont plus là, ils ont trouvé du taf, ils ont quitté la ville. Ah. Et je me retrouve un peu seul. Tout seul. Je suis avec mes parents. Mes parents, ils savent pas lire, ils savent pas écrire, et surtout, ils ont les pauvres, ils ont confiance parce qu'ils se disent, c'est les grands frères. Ils ont tous été sérieux, ils ont tous été. Vu qu'ils sont nés au bled quand ils sont arrivés en France, il y a un truc de ok, la misère on connaît. Là, on peut aller à l'école, donc on va tout donner quoi. Donc eux, ils ont fait des grandes études, ils étaient toujours dans les premiers. Et moi, vu que je suis un Français, j'étais nul, quoi. J'étais un bourge, quoi, en fait. Donc je me laissais un peu aller. Et puis, à partir de la cinquième, ça a été... j'arrive 9,5, 10, 8, 8,5 de moyenne. Comme ça, tout le long, après BEP compta, je me fais virer. Pour pas grand chose. Hein,
J'avais mis le feu.
Non, bavardage, des trucs comme ça. Là. Ah bon ? Ça suffisait, ouais. Ça suffisait avant. Ça suffisait pour.
Parce qu'il voulait pas de toi. Hein.
Oui, non, parce qu'en fait. C'est une excuse un peu. Normalement, t'as un conseil de discipline. Et là, il n'y avait pas de conseil de discipline. Mais du coup, il me virait pas, il me reprenait pas à la rentrée. C'est ça qui m'expliquait M. Marshall. Mon directeur, qu'on appelait Monsieur Marshmall parce qu'il avait une jambe de bois. Il avait une jambe de bois, Monsieur Marshall. Donc, Monsieur Marshmall, si tu nous écoutes, j'espère que tu es mort. Et il l'avait perdu à la guerre d'Algérie. Ouais. Il l'avait dit une fois, il a dit « ça, c'est l'Algérie, ça !» Putain, ouais, merde, attends.
Parce qu'il avait pris un coup de chaud, d'un seul coup, ça lui était sorti.
Ouais, je sais pas, il y a eu une embrouille, il est venu, il a dit « vous allez vous calmer maintenant !» Et c'est vrai qu'il y avait beaucoup de rebeux ce jour-là, et il a dit « ça, c'est l'Algérie !» Et on était un peu choqués, quoi. Parce que on savait même... La guerre d'Algérie, on l'avait même pas vraiment étudiée et tout, donc... Donc on n'avait pas tout capté et tout, et puis après, j'ai fait un BEP distribution magasinage, et puis après, j'ai fait un bac... Ça, c'est distribution magasinage, il n'existe plus. Ils l'ont fait pendant 2 ans, c'est pour être manutentionnaire. Voilà. Comment porter un carton.
Non.
Je te jure.
Comment... Il y a la logistique.
Il y a ça, ouais. Parce que tu peux passer.
Mais c'est un truc.
J'ai mon permis cariste. Et tu pouvais passer le permis cariste dans la formation, je me rappelle.
T'apprends le PEPS, le premier entrée, premier sorti, les trucs comme ça.
Quand t'arrives en fac de sociaux.
Oui.
PEPS. T'as quel âge?
J'arrive en fac de sociaux, j'ai 21 ans. J'ai à peu près, en tout et pour tout, 3 ans de retard.
BEP, t'as 3 fois le brevet raté, redoublé du BEP, ça fait
beaucoup de choses. T'es sympa de leur mettre ça à pleine face.
C'est pas ça.
Mais
à un moment, tu retrouves, entre guillemets, le droit chemin, parce que pour aller en fac de sociaux, il faut avoir le bac.
Oui, j'ai le bac, j'ai fait une première d'adaptation.
Ah.
Pour t'élever socialement. Je connais. Tu passais par la première d'adaptation pour pouvoir intégrer un bac STT pour ensuite viser la fac. Parce que j'avais fait un stage chez Conforama où je faisais 5 semaines de manutention. J'ai dit, ok, ça, je veux plus le faire. Je veux pas, quoi. Je veux pas faire un taf manuel, quoi. C'est un mal au dos. Enfin, c'est dur, quoi.
Bon.
Ouais, pardon, on s'écarte.
Non, c'est pas ça, on s'écarte pas. Mais moi, je me dis, mais putain, mais alors comment on en arrive à tout à coup?
J'arrive à Paris.
Voilà, j'arrive à Paris. Moi, avec l'idée, je me dis, mon objectif, c'est d'avoir un travail. Mais voilà, intérim, faut pas trop que ça me prenne la tête parce que j'ai envie de profiter aussi. J'ai envie de partir en vacances des 2-3 mois de temps en temps. Donc, je veux pas un CDI, quoi. C'est tout ce que je sais. Donc, et du coup, je trouve du taf un peu partout, quoi. Je suis Planète Sushi, d'ailleurs. Je travaille à Planète Sushi. Tout à l'heure, parlais de Sushi, bien sûr. Et c'était génial. Et donc, j'étais télé-enquêteur. J'étais chargé d'assistance chez AXA, les trucs comme ça. Mmh. Là, tu vois, c'est des tafs, on va dire, alimentaires, quoi. Mais moi, c'était des tafs que j'aimais bien. Je trouvais ça cool. Il y avait une bonne ambiance et tout. Et puis, au bout d'un moment, en fait, le hasard de la vie fait que je fais une scène un jour comme
donc,
ça.
Mais pourquoi ton pote te dit « chiche, tu montes sur scène »
Parce que
pourquoi
je suis un peu marrant. Que,
voilà.
Je suis un peu marrant dans la vie.
C'est ça, en fait.
Oui.
Parce qu'en fait, il dit « ça vient comme ça, ça vient pas de nulle part, quoi ».
Ouais, ouais. Ah oui.
Nous on se connaît depuis qu'on est ado. Ouais. Et moi, depuis qu'on a 18 ans, depuis qu'on a 18, la vingtaine, je sais pas, j'étais persuadé que en fait, il avait sa place pour faire ça, quoi.
Ouais.
Et il y a quelques moments déclencheurs où je me dis, mais en fait, il est fait pour ça. Alors après, comment il pourrait y arriver, tout ça, je sais pas,
mais il a l'aptitude. Oui.
Moi, j'ai un souvenir.
Bah, moi, j'en ai deux.
Soir où il raconte une histoire.
Alors, chacun raconte le moment déclencheur.
Alors, moi, mon histoire.
Non, mais avant ça, il y a déjà un quotidien. Et quand on est ensemble, voilà, quand t'es jeune, tu passes beaucoup de temps ensemble à rien faire. Et quand même, malgré tout, il savait raconter une histoire. Il savait, il se racontait une bagarre qui avait eu lieu, tu vois, genre à l'autre bout de la ville, il te racontait ça. En fait, ça pliait tout le monde en rire et tout le monde écoutait. En fait, capacité à prendre
l'attention.
Voilà. Et même de personnes, on va dire, hiérarchiquement plus haut, c'est-à-dire que dans ces milieux urbains, voilà, tu vois, t'as un peu les durs. Et donc, même ces mecs-là, à ce niveau-là, dans ce cadre-là, ils le respectaient, parce que du coup, ils étaient en attente et ils écoutaient. Donc, déjà, il y avait cette base.
Ce truc-là, ouais.
Alors, moi, je veux dire un autre truc, parce que tu vas dire l'autre.
Ouais.
Et moi, j'ai eu ce truc-là où on était parti manger chez une amie à moi, donc du côté de Ceinture, donc plus côté rural, tu vois. Et donc, voilà, une grande bouffe. Donc, tu étais là, il y avait Julie, il y avait Sarah, il y avait tout le monde.
Ouais.
Et il y avait les parents de ma copine. Et en fait, ils racontaient des trucs. Et les parents de ma copine étaient morts de rire, tu vois.
Ouais.
Et là, je me suis dit, ah, il fait pas, tu vois.
Le petit cercle d'amis.
C'est ça.
C'est aussi d'autres personnes.
Donc, il y a peut-être quelque chose qui fait qu'ils communiquent, ils arrivent à communiquer au-delà de...
Du cercle d'amis.
Voilà,
proche,
c'est ça.
Quoi.
Donc, moi, c'était un petit déclic. J'ai dit, ah, en fait, ouais, il y a autre chose.
Il
y avait les signes dollars dans les yeux.
Le observateur,
on était jeunes, là. J'étais pas encore. On avait 18 ans, quoi.
Ouais, mais
t'avais déjà l'œil du journaliste, c'est-à-dire de la personne qui note, qui non seulement rit de voir son pote, mais qui arrive à sortir de la scène pour regarder ce qui se passe sur d'autres gens.
Ce qu'il avait par rapport à nous,
ça s'appelle une capacité d'analyse.
Ouais, exactement. Mais ce qu'il avait, Mounir, par rapport à nous, c'est que déjà, il était beaucoup moins con que nous. Je me rappelle quand on était... Même ma mère, elle disait, lui... Il n'est pas comme vous, quoi. Comment il parle et tout, il n'est pas sauvage, il est gentil. Je disais, ouais, c'est vrai, Mounir, il est sympa, quoi. Il est intelligent, quoi, en fait. Ma mère, elle disait ça carrément. Elle disait, vous êtes con. Et lui, il est intelligent. Et c'est vrai qu'il a ce regard que peut... Moi, il me dit, je me rappelle, j'ai le souvenir, mais jamais je me dis, à ce moment-là, jamais de ma vie, je me dis, ouais, peut-être qu'un jour, je vais faire ça. C'est tellement loin, quoi. Tu vois,
tu fais un truc que tu sais faire, c'est-à-dire.
Je suis content de faire rire des gens.
Tu racontes bien
quoi.
Les histoires et tu sais amener les gens au rire en les racontant.
Oui, parce que c'est un truc, je pensais, culturel, je pensais un peu familial aussi. On est tous un peu. On est du sud du Maroc, donc il y a un truc un peu de conteur, quoi. Ma mère, elle est comme ça, mon père, elle est comme ça. Donc je pense que ça vient de là, quoi. Mais sinon, après, pour le fait de se dire, je vais être humoriste, c'est ça qui.
Alors,
qui va mettre
quoi,
du
alors,
temps, quoi.
Autre élément déclencheur.
Ah oui, on était ensemble au Maroc, c'est ça ?
C'est ça,
en vacances, c'est la première fois qu'il mettait les pieds en Afrique. On est partis ensemble, on avait 20 ans. Et il n'était jamais parti, en fait, au bled.
Ok.
Et
quel bled ?
C'est au Maroc, on était partis au Maroc.
Oui, mais quel bled du Maroc ?
On avait fait un road trip. On avait fait Casa, Marrakech, Meknès, je crois.
Ouais, c'est ça. Bah.
Ouais, c'est ça. En fait, on allait chez les gens. Moi, je suis de Marrakech. L'autre, Khalid de Meknès.
Radouane
de Casablanca. Voilà. Donc, et lui, bon, il profitait de.
Voilà.
Et on était à la piscine, je crois, de Meknès.
Aladdin,
bien sûr. Aladdin, bon, j'aurais plutôt dit Jafar. Mais. Et arrivé là-bas, je me mets à raconter une anecdote sur Rafik, je crois.
C'est ça.
Sur un pote qui était, comment dirais-je, une sorte de séducteur un peu, mais qui avait des techniques de drague un peu à l'ancienne. Et je commence à me moquer de lui devant, au début, une petite assemblée.
Il y a nous, en fait.
On est 4-5. Et il rigole. Et ça attire le regard d'autres gens qui écoutent. 3 plus 3. Et puis au final, ça fait une scène de, je sais plus moi.
De 20 personnes.
20 personnes, quoi. Mais que je connais pas, et je raconte, je dis, vous savez, lui, et je vois que tout le monde rigole. Et il y a une sensation un peu, je me sens à ma place, quoi.
Tu te sens à ta place ou tu te sens euphorique ?
Les deux, peut-être.
Est-ce que des petites pic-pic de chaud sous les bras ?
Non, ça me fait pas ça. Mais genre, je suis content, quoi. Je me sens bien, je me
mais
sens
une
à
forme
l'aise.
De contentement que tu avais déjà expérimenté ou
pas comme ça. Là, c'était la première fois que ça me faisait ça, parce que c'était vrai, il y avait 20 personnes, ça fait beaucoup quand ouais. t'es un peu...
Que
quand
tu t'as connais 20 pas, ans en plus, t'es pas un repas
oui.
familial.
Ou voilà, c'est ça, faire, ouais. parce que c'est des gens que je connais pas et qui sont morts de rire, quoi. Et je me dis, je suis un peu marrant, quoi. Mais je me dis pas, si tu veux, ah, ça va être mon métier. De là, il y a 10 ans pour se dire, allez, ouais. j'essaye, quoi. Parce que... En fait, t'as pas trop accès à 20 ans au théâtre.
Non, mais d'autres dans ta, c'est aussi une affaire de nature. Toi, t'es pas, enfin, tu me fais l'effet de ce que je vois de toi.
Ouais.
T'es pas quelqu'un de d'arrogant. Moi, souvent, ce que j'observe chez les comiques,
c'est les comiques
qu'on
ouais.
reçoit dans l'émission, quelques mal qu'ils aient à le dissimuler, et y compris ouais. les humoristes dans l'émission, c'est qu'ils ont des égos surdimensionnés.
Non, non, ouais.
trop dimensionné.
Et, alors, c'est intéressant.
Et ça n'est pas ton cas, voire même le cran.
Peut-être qu'il cache. Hein.
En dessous.
Alors, pour, je
suis pas mauvaise à détecter les connards, crois, quand même. Hein.
Je crois que c'est à cause de l'éducation, je pense que c'est à cause de ça. Et, enfin, grâce, du coup, j'ai eu une éducation un petit peu religieuse qui nous disait celui qui a un peu d'orgueil. Une once d'orgueil, je crois, c'était ça qu'on me disait. Eh ben, il va pas au paradis. Et on me disait ça quand j'étais petit.
Et tu l'as cru.
Ouais, bah
oh,
oui.
Ça se tient en même temps.
Ouais, ça se tient, mais ouais, c'est un super message. En gros, il faut. Personne n'est mieux que toi, mais toi, t'es pas mieux que les autres. Mm. Attends. Personne n'est mieux que toi. Voilà, ouais, c'est ça. Personne n'est mieux que toi. Et c'est ça que j'ai appris. Donc, il faut essayer d'avoir. C'est pas parce que tu fais rire les gens et qu'ils t'écoutent pendant une heure que t'es mieux qu'eux, quoi. Il suffit juste de poser la question, tu fais quoi dans la vie à quelqu'un qui va te dire, moi je suis chirurgien, je sauve des vies, tu vois. T'as l'air con, t'as l'air minable. Tu te sens un peu petit, quoi, tu vois, quand quelqu'un te répond ça. Donc je pense que...
Après, sur l'ego, je pense qu'il y a un autre facteur aussi, c'est dans l'environnement du groupe d'amis dans lequel on traînait, on a vraiment tous une tradition, en fait, où c'est impossible que tu puisses te prendre au sérieux. Parce que tout le monde va te massacrer.
T'es
en fait.
Mort, ouais, t'es mort.
Donc voilà, oui, le chambrage, et en fait...
Que, oui, mais ça,
donc,
ça, ça
en fait,
marche
tu peux,
parce
tu
que
peux
vous
pas
restez
monter.
Ensemble.
Tu peux pas monter, en oui. fait. Tu vois, c'est oui. impossible de monter. Parce que... Et même quand on était ado, à cette époque-là, dès que tu commençais un peu à faire le... Tu vois,
à
machin,
faire le kéké, à faire l'intéressant. C'est
reprise de
volée, toi.
Parce qu'en fait, tout le monde te dégonfle. Et donc, je pense qu'il y a ce truc aussi où ça te pousse à avoir du recul sur toi. Et quand tu fais des...
Voilà. On joue la pièce. Continue, hein. C'est Ramzy qui se fait un café.
Et donc, je pense que si ça aide à rester dans une forme de, on va dire, normalité, quoi, et de se dire, bah non, mais si je commence à faire ça et que les potes, donc tu vois, le noyau, ils écoutent ou ils voient ça, je suis mort en fait.
C'est fini. C'est fini.
Oui, mais après.
Non, ça, c'est une vraie crainte. Oui, mais parce que moi, par exemple, là, ce dont il me parle, pour moi, c'est de l'hébreu. J'ai pas ça, moi.
Ouais.
J'ai pas cette...
C'est quoi ?
Et après,
bah,
je pense...
J'ai pas des gens comme ça autour de moi. Enfin, oui, si, il y a ma mère qui...
Ah, c'est pour ça que t'es une connasse.
Non, mais il y a ma mère qui... Elle s'est bien chargée de, de m'expliquer qu'il allait pas voir il allait pas falloir péter plus haut que son cul.
Ouais, ouais.
Mais j'ai pas la bande comme ça. J'ai une amie d'adolescence, mais elle vit très loin de moi. Je ne la vois pas. Je ne suis pas en contact avec elle quotidiennement ou quasiment. Ouais. Donc, ce que vous me racontez, en fait, pour moi, c'est pour ça que je vous dis c'est de l'hébreu. Parce que, enfin, et je pense que toi, c'est pareil. Tu vis à Paris, mais c'est pas ta ville. Donc, t'es pas en contact quotidiennement avec quelqu'un qui te connaît depuis le collège.
Attends, c'est pas anodin. J'ai aucun contact comme... avec les gens que je connaissais au collège. J'ai pas ça donc.
Ramzy n'aime pas les gens, pour repréciser.
Bon, Ramzy a le cul cousu d'amis, donc non, c'est pas vrai.
Oui, mais mes amis.
Du lycée peut-être.
Non plus.
Non.
Vraiment, c'est venu après. Ce que j'ai aujourd'hui, c'est des amis que je me suis fait après l'école.
Note à moi-même. Ne pas oublier d'interroger Ramzy plus avant sur ce point.
Non, mais je pense que c'est pas forcément... Le groupe, tout ça, vous restez ensemble, mais c'est plus une conséquence de vos personnalités. Je suis pas sûr que c'est ça qui façonne le fait de pas péter plus haut que son cul. Parce qu'il y a d'autres gens, je pense, qui vivaient dans des groupes où justement ça se vannait, qu'il y en a qui sortaient. Mais ça veut pas dire que la personne qui a voulu décider à un moment d'avoir
un peu de personnalité.
Après, ils arrêtent de les voir. Voilà.
Nous,
ça,
on se voit encore, les gens avec qui j'ai grandi. On est tous à Paris. On se voit tout le temps, quoi. On est restés très proches. Donc, c'est vrai qu'on a gardé un peu cette mentalité. Et sur l'ego. Ouais, des fois j'écoute des gens qui me disent un humoriste c'est obligatoire, il lui faut de l'ego, un ego surdimensionné et tout. Je suis pas sûr, moi.
Tu dis ça, ouais, non,
les gens,
pas,
des fois j'écoute.
Les humoristes
ça,
ont un gros ego.
Ça aussi, c'est une légende urbaine.
Ouais, moi je suis pas
d'accord. Tout le monde a l'air de vouloir.
Alors que moi j'en connais plein qui sont plutôt timides en plus, dans la vie, quoi.
Ah ouais,
dans la vie,
non,
tu
mais
vois.
On dit souvent que pour durer, il faut un ego fort parce que. Pour tenir sur les tempêtes, les moments creux et se relancer.
Ah,
mais je crois que les gens
moi, je pense
que
c'est le contraire.
Mais je pense que ceux qui parlent d'ego, je pense qu'ils ne savent pas ce que c'est que l'ego.
Oui, ouais.
En fait.
Je pense que c'est le détachement, moi, qui fait faire que ça se passe bien.
Je pense
qu'ils
parlent de
narcissisme. Je pense que ça peut marcher aussi. Enfin, ça marche aussi là-dessus.
C'est l'autre option, c'est une arrogance absolue ou une capacité au détachement.
Mais le détachement, c'est parce que c'est bien ce qu'on fait, on aime bien notre travail, mais il y a des fois ça marche bien, des fois ça marche moins bien. Le remplissage, des fois tu vas dans des villes, c'est complet, en avance, t'es trop content. Des fois tu vas dans d'autres villes, il y a moins de monde. C'est pas grave, tu vois.
Oui, mais c'est sur du court terme. Mais ouais. sur du moyen ou du long terme, c'est aussi à un moment, tu parles plus aux gens, en fait. Tu parles plus au public.
Ouais.
T'as plus de public qui te comprend ou qui te... Pour tenir
ouais, mais t'auras toujours
sur ces périodes-là. Il faut soit du détachement,
ouais.
soit un ego fort et
ouais,
et
mais
s'imposer
le...
par la force, quoi.
Ouais, mais c'est horrible.
Ouais, bah oui.
Ouais,
bah...
c'est horrible. Ouais.
Bah ouais.
Non, s'imposer par la force. Mais je pense que si les gens te comprennent, t'auras toujours un public. Si t'es sincère dans ton propos, je pense que c'est obligatoire que tu vas trouver un public de toute façon.
Je sais pas, parce qu'il y a, si des, il y a des tendances, il y a des choses, il y a des tas de choses, des tas de facteurs qui sont autres que toi dans ce que tu fais.
Ouais, tu auras peut-être moins de monde.
Moins de monde, ouais.
Ouais, ouais mais c'est pas grave.
Ouais, mais
tu vois,
il faut que tu arrives à vivre.
Oui,
ça.
Bah, j'ai fait des calculs à partir de 60 résa.
Ah, là, c'est
deux, trois fois semaine.
Deux fois semaine. Deux fois semaine.
Trois fois. Je suis...
Et moi, j'aimerais bien revenir sur alors. Cette fois où tu montes sur scène quand même pour la première fois.
Voilà.
Ouais.
Alors,
cette scène ouverte.
Oui, cette scène ouverte. Pourquoi scène. Ce mec-là te dit, vas-y, c'est quoi le délire de... Bah. Tu te sens piqué et tu y vas.
Bah, en fait, j'y vais pas direct. Déjà, je mets un an.
Mais qu'est-ce
parce que début... non, c'est pas...
C'est pour ça que ça a mis 10 ans,
mais
en fait.
C'est ça que
j'adore
avec Jamy, c'est que, en fait, tous les espaces sont démultipliés.
Oui, parce que...
En fait, ça va être un podcast en 4 épisodes.
Ça met un an parce qu'au début, je regarde, j'y vais. Je vais regarder les scènes ouvertes.
Tu vois des gens qui prennent des bides.
Je vois des gens qui prennent des bides. Je vois des gens qui cartonnent. Ça donne envie, ça. Moi, je trouve.
Ah, quand même, ça t'excite.
Quand les gens cartonnent, je dis « Ah ouais, trop bien, j'aimerais bien, moi aussi, arriver à ça un jour. » Tu vois, ça me motive un peu. Mais quand je vois des mecs qui prennent des airballs comme ça, sur chaque vanne, quoi.
Est-ce que tu dis pas c'est que c'est nul ce qu'ils ont écrit et que toi, tu pourrais écrire des trucs mieux ?
Bah, y en a, je me dis c'est nul.
Ouais.
Parce que c'était nul, vraiment. Mais il y en a, je me disais, putain, c'était pas nul, quoi.
Ah ouais.
C'était quand
ouais,
même...
Coup,
c'était
ça peut faire peur.
Oui, c'était ouais. travaillé,
tu
c'était recherché,
dis,
il y avait une ouais. volonté, une proposition, mais ça passe, le public n'est pas réceptif.
Ouais,
quoi.
J'ai déjà, moi, rigolé tout seul à un gars qui s'appelait Perceval de Grasse, je m'en rappelle, et qui faisait un peu d'humour un peu absurde. Ouah, j'étais... Tu t'en rappelles de lui ?
Non, mais j'étais pas là.
Ouah, j'étais mort. J'étais tout seul. Et lui, il était. En fait, c'était un truc.
Il était bien seul aussi.
Ah ouais, ouais. Il s'en foutait. Je lui ai parlé à la fin. Il m'a dit j'en ai rien à foutre. Ils n'ont pas compris mon délire. C'est une proposition originale. C'est normal. C'est un peu une sorte comme. À l'époque, c'était le début de Monsieur Fraise
ouais.
aussi.
Ah oui.
Tu vois, c'est une proposition, Monsieur Fraise. Tu rentres dedans ou tu rentres pas dedans.
Oui.
Si tu rentres pas dedans,
ah bah oui,
tu vas te faire chier, quoi. Ouais. Tu vois. Tu vas te chercher. Et
donc,
là, c'était. Ouais.
Et donc, tu mets un an pour y aller.
J'ai
mis un an
pour y aller. Qu'est-ce qui te dit le mec pour que tu y ailles quand même ? Qu'est-ce qui t'a dit ce mec ?
Non, c'était. Tu sais, c'était. Pour rigoler, quoi. Tu vois, c'était Yacine.
Okay.
Yacine et Wader. le boucher de Wall Street. Bon, c'est une longue histoire. Faudra l'inviter lui parce que et on va voir. On va voir. Oui, voilà. On va voir une pièce de théâtre qui s'appelle Bronx avec. Je voulais pas le reciter, mais bon, avec Francis Huster, qui s'appelle Bronx. Et c'est sûr, c'est l'adaptation du film « Il était une fois dans le Bronx ».
Je ne crois pas, il a fait ça, il a osé.
Oui, il a fait ça avec de Niro, c'est le premier film de Niro.
Oui, qui est super.
Il est génial, le film, il est génial. Et donc, on va voir ça, parce que nous, on voit Bronx, une pièce de théâtre, avec lui, Francis Huster. Pour nous, on ne connaît pas Francis Huster, on sait que c'est le mec de Dîner de cons. Tu vois, il est dans Dîner de cons et son rôle, il est trop marrant. Moi, je me rappelle, Dîner de cons, il est génial. Et on était tous fans du film. Je dis, rappelle-toi, c'est le mec de Dîner de cons. Ah ouais, je me rappelle. Donc, on va voir. Et en fait, nous, on croyait que c'était une pièce de théâtre. On n'avait jamais vu de pièce de théâtre, à part en troisième avec Madame Espenel, pièce de théâtre. Avec Patrice Lafont, il était venu, je me rappelle, c'était exceptionnel.
Ah ouais,
ouais, Patrice Lafont. Il avait fait une pièce de théâtre, trois mariages, une lune de miel, tu sais, des trucs un peu. Les comédies de théâtre des deux ânes. Non, c'est quoi là le.
Boulevard.
Le boulevard. Et puis quoi et c'est, et c'est horrible. C'est, j'ai jamais vu ça. Et alors.
Mais t'avais pas vu le film à l'époque?
Non, je connaissais le film par cœur. Je connaissais.
Donc t'as pris une grosse calotte.
Donc nous, on connaît les répliques du film. On connaît.
Vous êtes prêts, quoi.
On est prêts. On est comme ça. On est trois comme ça, je me rappelle. Et j'écoute. Et je vois Francis Huster qui arrive. Et qui, avec sa voix, tu sais, il a une voix un peu. C'est pas un italo-américain.
Pas du tout.
Voilà. Et il arrive et il dit. Ouais, je suis Sonny de Brooklyn. Je sais plus ce qu'il raconte. Sonny parle toujours avec ses trois doigts, tu vois. Il est comme ça, ok, Sonny. Et il fait ça. Et donc, je suis avec mes potes. Et nous, on croit que c'est une blague. On comprend pas au début, on n'a pas le truc. Et j'écoute. J'écoute des gloussements comme ça. Et puis, tout le monde qui nous dit chut. Là, on se retourne, je stop. Tu vois, petite embrouille dans le théâtre. Après, je dis, ah non, je crois, apparemment, ça va être ça, les gars. Et en fait, et il interprétait tous les personnages. Il faisait tous les persos.
Même l'enfant et tout.
Il faisait l'enfant, il faisait Sony, il faisait le père de famille, donc De Niro, le chauffeur de bus, ouvrier. Tous un peu mal. Mais vraiment, je veux dire, c'est pas. Comment ?
Un exemple pour nous tous de production. Une adaptation, un rôle, et
voilà.
un cachet, réglé l'affaire.
Et il faisait la lumière aussi. Si, il avait signé la lumière.
Ah bon ?
Ah oui.
Mais c'était... Et c'était vraiment nul. Et on taille tout le chemin du retour, donc fou rire, on rigole, on est dans le métro, on limite et tout, on se tape des grosses barres. Et moi, je dis, putain, mais ça m'énerve et tout. C'est pas normal que des mecs aussi nuls... Moi, je connaissais pas, je veux pas manquer de respect à ce gars, tu vois. Ouais, Francis, mais il se dit, comment un gars vous aussi nul, il peut faire tout ça, quoi. Enfin, une pièce de théâtre, en plus, un film incroyable, quoi. Et c'est là qu'il me dit, ouais, mais toi, tu parles, tu nous fais rire, t'es marrant, mais tu...
T'aurais
pas le courage de faire ce qu'il fait. Ah, ça m'a un peu... Tu vois, ce qu'il me dit, en gros, tu parles, mais tu fais rien. T'es comme tout le monde, quoi. Tu vois, et je dis, ouais, c'est vrai. Bah, je vais faire une scène, là, tu vas voir, tout le monde va rigoler. En plus, je faisais un peu le malin, quoi. Et après, je suis parti voir les scènes ouvertes, et c'est là où j'ai dit, putain, merde, je crois que ça va être chaud. Parce que ça fait hyper peur, quoi. Mais vraiment, moi, je me rappelle de la sensation. Je dis, wow, putain, comme... un match de boxe, quand tu vas voir un match de boxe, tu regardes et tu te mets à la place du boxeur, tu te dis putain, il va prendre des pêches pendant 10 rounds dans la tête et tout le monde va dire allez, continue, connard, t'es nul, tu vois. Alors c'est terrible. Et ben là, c'était un peu pareil, quoi. Et après, je trouve une scène ouverte au Changeman.
Et donc, tu mets un an, tu regardes pendant un an des scènes ouvertes.
Ouais, pendant un an, mais j'y vais pas tous les jours, quoi. J'y vais de temps en temps. Et puis après, donc, on fait le Changeman. Et puis, ça se passe hyper bien. Ça se passe hyper bien.
Et comment t'as écrit ? Comment tu... Est-ce que t'as tout de suite fait appel
à... Non, pas avec Mounir. J'avais...
Je crois que j'étais même pas en France à ce moment-là encore.
Si, t'étais là, parce que c'est toi qui as filmé avec le portable.
Ah oui, c'est vrai.
Pour avoir un souvenir.
J'ai vu. Oui, mais c'est vrai, j'étais rentré.
T'étais rentré, je m'en rappelle, Mounir. Et je mets des tirés comme ça et je dis je vais parler de ça.
Mais t'écris pas concrètement.
J'écris pas à la virgule.
Ah ouais ?
Ouais, pour pas avoir le stress de. Je me dis, je vais raconter à peu près ça.
Et tu racontais quoi ? Tu racontais les histoires que t'avais déjà racontées à tes potes ?
Ouais.
Ouais.
C'est ça en fait. Tu racontes un peu et t'extrapoles un peu. Du coup, tu peux mentir quand t'es sur scène, tu peux en rajouter des tonnes, tu peux aller dans l'absurde, ça, ça passe encore mieux. Donc je m'étais dit, je vais faire ça, quoi.
C'est le principe de l'autofiction, en fait.
Ouais.
Tout le monde crache sur cette forme de littérature, c'est très à la mode en ce moment, de cracher sur cette forme de littérature, mais en fait, c'est exactement ça, l'autofiction. Tu pars d'une base réelle, qui est personnelle.
Et tu l'extrapoles.
Et t'en fais ce que t'en veux, en fait, puisque ça t'appartient, parce que c'est ta vie.
Ah ouais, ah bah tu vois, bah voilà. Ouais, je suis un peu aussi dans la littérature.
La manière que tu as eu d'exprimer, je me suis dit, en même temps, c'est cohérent, enfin, ça marche dans le domaine de l'humour et dans le domaine de la littérature.
Totalement.
Et je voulais noter un truc, c'est que c'est la première fois qu'on reçoit quelqu'un qui nous parle de la peur que ça peut faire.
De monter sur scène.
Ouais, et que les autres gens ne nous ont à aucun moment parlé de ça.
Mais peut-être parce qu'on les a pas interrogés là-dessus. Ouais.
Non, on n'a pas interrogé.
J'ai mis un an aussi pour monter. Un an de frousse.
Moi, ça m'intéresse parce que moi qui suis une pétochard.
Non, toi, la première scène, j'imagine que c'était au cours Florent. Non, c'était avant.
De jouer devant des gens. Au cours Florent, tu joues pas devant des gens. Il
n'y a pas une représentation d'école à la fin. Il n'y a pas une représentation fin d'année.
Oui, trop drôle. Non. Non, mais moi, c'est pas pour moi, la première fois que je suis vraiment montée sur scène, la vraie, enfin, parce que moi, je joue avec des musiciens, j'ai fait ça pendant un an et demi, et je lis un orchestre de chambre de l'Opéra de Paris, et je disais des textes.
Tu faisais des lectures, hein.
Mais pour moi, j'avais pas l'impression d'être sur scène. Je sais pas pourquoi, je me demande pas. Mais c'est quand on a écrit Arrête de pleurer, Pénélope, la première fois qu'on a joué. On se faisait payer au chapeau, là vraiment la trouille.
Est-ce que c'était quelque chose de plus intime? Parce que c'est quelque chose que tu avais écrit toi?
Non, parce que je l'avais écrit moi.
C'est ça.
Parce que je me sentais sur scène, mais en plus ce que j'avais écrit, c'était, c'était extrêmement personnel.
Pourquoi t'as dit non là?
De quoi?
T'as dit non.
J'ai dit non?
Oui.
Parce que, alors, j'ai dit non.
T'as dit non? Non, c'est parce que j'ai écrit moi.
C'est un tic de langage.
Ah. Non, je pense que c'est parce que j'ai pas compris.
D'accord, ok, on reprend, vas-y.
Alors oui, j'avais très très peur parce que...
C'était quelque chose d'intime, je ne comprends pas.
Non, non, mais ouais, j'ai compris.
Voilà, moi, la terreur de ça... Mon corps, il s'en souvient encore. Enfin, je l'ai encore, il me semble.
Non, mais
est-ce que vous avez repoussé ça comme Jamil, pas autant... pendant un an, mais est-ce que vous avez...
Non. Non, mais on était trois, donc c'est pas pareil.
Ah, tu peux pas,
Tu vois, quand il y en a une qui commence à faiblir, il y a les
l'autre
deux
qui l'aide, machin, qui l'attire.
Mais qu'est-ce que tu veux qu'il nous arrive au pire, nanana. Et en fait, moi, ça s'est réglé le jour où j'ai trouvé ma formule, que après j'ai léguée à plein d'autres comédiennes que j'ai formées, pour jouer Arrête de pleurer, Pénélope. Ma formule, c'est quand je les voyais défigurer de trouille les soirs premières, je leur disais, écoute meuf, quoi qu'il arrive, tu perds ton texte, on fait un four, les gens nous jettent des chaises, quoi qu'il arrive, dans une heure et demie, c'est fini.
Ouais, c'est
et tu peux pas dire ça de grand chose.
Ouais, c'est vrai.
Mais ça, je te l'affirme. Et en fait, moi,
c'est vrai, c'est bien.
Parce que même quand tu fais un four, au bout d'une, une fois qu'il est passé,
non,
ça te reste un peu dessus. Après,
Moi, c'est le moment où je suis plus devant les gens.
Ouais, le fait de se le dire, c'est vrai que ça.
Qu'à un moment, tu vas rentrer dans les coulisses et tu vas t'asseoir et tu vas faire. Ça.
Ouais, un petit soulagement. Moi, quand j'ai. Quand j'ai trop peur et tout, enfin avant c'était surtout avant, je me disais tout le monde s'en fout.
Ça aussi ça marche.
Les gens
oui.
n'en ont rien à foutre. Comme disait Jean-Marie Le Pen,
pour citer les grands auteurs.
Jean-Marie Le Pen depuis un moment.
Il a dit ça une fois.
On l'a pas cité encore dans le podcast.
Ouais, je pense que c'est important de le citer. Et il avait dit ça une fois et j'ai dit putain, JM, c'est vraiment lui le meilleur. C'est mon gars sûr. Il avait dit. Un journaliste lui dit oui, quand même, vous êtes parti de 0,3%, vous avez atteint. Vos idées ont gagné toute la droite française et tout. Qu'est-ce que ça vous fait? Il a répondu, oh, vous savez, par rapport aux galaxies, on n'est pas grand-chose. Je me suis dit...
Putain, toi, t'as entendu Jean-Marie Le Pen faire preuve d'humilité?
Mais je te jure, il a dit ça.
Mais il n'y a que toi qui étais devant la télé.
C'était... mais je vais te retrouver la vidéo.
Moi, je sais qu'un jour, j'ai assisté à une émission où il y a quelqu'un qui a dit dans le public, à Paul, je crois que c'était Paul Amar, le présentateur, il a dit... ils n'arrêtaient pas de parler de nique ta mère. Parce que c'est l'époque où on ne disait pas encore NTM. Les journalistes, ils disaient nique ta mère, nique ta mère, nique ta mère. Et il y avait un mec qui s'était endormi dans le public.
Ouais.
Et le journaliste, il est arrivé très, très vite sur le type, dans le public. Et il lui a tendu le micro. Et il lui a dit, et vous, qu'est-ce que vous pensez de nique ta mère? Et lui, il s'est réveillé comme ça. Il a fait, c'était l'émission directe. Il a fait, Mais qui a niqué sa maman ici? Et comme en gros, il n'y avait que mon frère et moi qui avons vu cette émission, personne ne me croit.
Ah ouais, merde.
Mais je vous jure que c'est vrai, il y a un type qui s'est réveillé d'un micro-sommeil.
Faut qu'on retrouve, ça, là.
Et il y avait, voilà, je peux vous aider à retrouver.
Ouais. T'as Didier des codes
Raoult.
INA.
Non, il y avait Didier Raoult dans cette émission. Il y avait ENTM et Didier Raoult, et c'était en direct.
Je pense qu'il y a moyen de l'art.
Il y a
moyen
de l'art.
Et je ne sais pas si c'est Paul Amar. Ah. Mais je me souviens du mec qui fait, mais qui a niqué sa maman ici?
Ouais. C'est incroyable.
Bon, bref, pardon. Ouais.
Et est-ce que ça t'a fait ça sur la deuxième pièce aussi? La première de la deuxième pièce?
Non, mais moi, ça m'a... Après, ça a été une maladie. C'est-à-dire que moi, c'est aussi pour ça que j'ai arrêté de vouloir écrire des pièces et de les jouer. D'accord. C'est que le trac, au lieu de baisser, est devenu de plus en plus puissant à l'intérieur de moi. J'ai pas su... Donc ça me rendait malade. Alors que les premières, hein, évidemment. Après, je suis pas plus conne qu'une autre. Une semaine, c'est bon.
Ouais, des fois ça peut.
Mais par contre, le vertige des premières, et jusqu'à l'accident, c'est-à-dire ma première avec ma pote Pénélope, une pièce qu'on avait écrite toutes les deux, et 2 minutes qu'on est rentré sur scène, et c'est moi qui dois parler. Et rien.
Ouais.
Je sais absolument plus du tout. Comme quand tu te réveilles, tu sais, dans un lit et tu sais absolument pas dans quel lit tu es, dans quelle chambre. Tu sais, quand tu viens de déménager.
Ouais.
Tu vois, ce moment affreux, tu sais, où tu fais what the fuck.
Ouais.
Ah, ben voilà, je l'ai eu sur scène.
Ah ouais.
Et Samantha me regardait et elle essayait de me dire ça va aller. Et ça a duré, selon moi, 20 ans.
Ouais. Elle a dit quoi?
La
8
police
secondes.
Dit 10 secondes. Ouais. Moi, en tout cas, je me suis juré que je revivrais pas ça. Ça
n'arriverait
plus.
Ah oui.
Je m'infligerais plus ce truc.
Radical. Et toi, François, ça t'est arrivé, cette peur de la première fois que t'es monté sur scène?
Oui.
Ok. Oui.
Non, mais j'essaie de m'en souvenir. Je m'attendais pas à ce que ça vienne sur moi.
Bah non, parce que comme on parlait pas de ça, il n'y avait aucune raison que tu te dises. Non, mais et moi, est-ce que ça va être.
Je me suis dit, on va retourner voir Jamil ou Mounir et que voilà.
J'ai toujours pas compris le principe du podcast, c'est qu'ils doivent participer. Mais,
si, moi, mais à chaque fois que je monte sur scène, à chaque fois, ça me le fait.
Mais la toute première. Est-ce que tu as eu ce truc de, je sais pas, vouloir presque repousser le truc ou,
Repousser, non, parce que ça doit se faire, donc je sais qu'il y a un truc dans ma tête où, de toute façon, on va le faire. C'est comme si c'était un truc inéluctable comme la mort. On va y passer. Et donc, en fait, je me fais des films, j'ai peur. Et ce qui est très bizarre, c'est qu'en fait, souvent, quand j'ai pas eu peur, c'était nul à chier. Donc j'ai un truc...
c'est une légende urbaine aussi. Non. J'ai l'impression que ça fait partie
du mythe,
superstitions qu'on se raconte entre acteurs et qui ne nous aident pas à...
Non, parce que je sais pourquoi je ne suis pas bon dans ces cas-là. C'est que il me manque une énergie, il me manque quelque chose.
Ah oui.
Donc en fait, cette peur-là, c'est le tract, c'est tout ce que tu veux, mais vraiment, ça peut être aussi très physique sur... des crampes, du bide et tout, et même aller au shot, mais genre 2 minutes avant de monter sur scène.
Ça, c'est normal. Et... 30 secondes avant, et on accueille le prochain.
Et pas l'absence de salive.
Si, t'as soif.
Putain, le nombre de fois où j'ai démarré.
Ah ouais, non, mais un bide.
J'ai une copine comme ça, une comédienne, dont je vais pas citer le prénom évidemment, elle se chopait des crises d'hémorroïdes.
Ah putain, merde.
Mais
ça c'est chaud ça.
Et comme moi je jouais avec elle et elle connaissait pas encore bien les déplacements.
Ingrid Chauvin.
Donc je la déplaçais sur scène.
Ouais.
Quand je voyais qu'elle avait oublié le déplacement, je la déplaçais sur scène. Et comme elle m'avait pas dit qu'elle avait des hémorroïdes, je la tirais par le string.
Aïe.
Maltraitance.
C'est de la maltraitance, c'est presque du viol. Le consentement n'était pas tout à fait.
Le consentement était claqué.
Et donc. Ramzi, on est trop long là. On va faire des épisodes, je pense. Hein.
Ok.
On arrête tout de suite.
Alors merci Jamil, merci Mounir, merci Juliette,
merci François.
Merci à vous. Et on se retrouve dans 3 semaines pour le prochain épisode.
Allez, ça va.
3 semaines. Oh, ça va, c'est long. Hein,
A lot can happen in the next 3 years. Like a chatbot may be your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans are available for these changing times.
Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer budget-friendly, flexible coverage for people who are in between jobs or missed open enrollment. The plans last nearly 3 years in some states, with access to a nationwide network of doctors and hospitals. So for whatever tomorrow brings, UnitedHealthcare Tri-Term Medical Plans may be for you. Learn more at uh1.com.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.